Les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins.
On n'a pas assez pour joindre les fins de mois. Donc heureusement qu'il y a des associations comme ça.
C'est une chance de pouvoir être accepté dans une telle clinique.
L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie des cyclistes.
C'est relaxant de faire du poney.
On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
C'est un challenge que je m'offre ici. Dans le monde carcéral, et une chance, surtout.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombarté et Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Retour sur les assises des départements avec la présence du Premier ministre Jean Castex. L'événement a eu lieu pour la première fois dans l'Ain.
Inciter les jeunes à lire plus. C'est l'objectif de l'opération Jeunes en librairie. Reportage avec une classe de l'Essécaria à la librairie Montbarbon.
Alice Desmarie, une jeune artiste burgienne, nous présente sa première exposition à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté.
Et tout de suite, c'est l'actualité en bref.
Bourque. En bref.
Premier cas de grippe aviaire détecté dans l'Ain.
À Bouligneux, dans la Dombe, un cygne sauvage a été retrouvé mort. Il était porteur de ce virus qui touche les volatiles. Il se propage en France et en Europe depuis plusieurs semaines. Pour cette raison, les élevages doivent être confinés pour limiter la diffusion de la grippe aviaire. Un arrêté ministériel a été pris. Les éleveurs de volailles de Bresse ont fait part de leur mécontentement. Patrick Chabrol est vétérinaire. Il est basé à Bourque et spécialisé dans les volailles.
Actuellement, les virus qui circulent ne sont pas dangereux pour l'homme, mais il y a effectivement des grippes animales à l'échelle de la planète, parce qu'on sait qu'un jour ou l'autre, peut-être, un virus animal peut muter et se transmettre à l'homme, un petit peu comme ce qui s'est passé avec le SARS-CoV-19, quoi, en fait.
Et donc vous, en tant que vétérinaire, est-ce que vous êtes un peu chargé de vérifier si des élevages sont touchés par cette grippe aviaire?
C'est notre quotidien, je dirais. En permanence, on est un petit peu sur le qui-vive pour savoir si nos animaux qui sont en élevage vont être malades ou pas. On fait beaucoup de préventifs au niveau, on appelle ça la biosécurité. On ne rentre pas dans un élevage n'importe comment, on fait attention à ce que les élevages ne soient pas liés entre eux, etc. etc. Et en ce qui concerne la grippe aviaire proprement dit, on est en permanence, effectivement, en train d'essayer d'observer les symptômes qui pourraient nous y faire penser.
C'est quoi ces symptômes?
Alors ils sont variables un petit peu en fonction des virus grippaux, mais c'est un peu toujours la même chose. Comme c'est une maladie virale très diffusible, faut réfléchir à ce qu'est la grippe chez l'homme. C'est des animaux qui deviennent fiévreux, donc qui sont rapidement malades. Donc on a en général des baisses de consommation d'eau, des baisses de consommation d'aliments. Éventuellement, si on a des poules pondeuses, des baisses de performance, c'est-à-dire que tout d'un coup, les poules ne pondent plus. Et puis on a de la mortalité qui s'installe. Alors avec les virus grippaux les plus pathogènes, si j'ose dire, on a même une forte mortalité en très peu de temps.
Et donc cette grippe aviaire, comment elle peut toucher des élevages?
Actuellement, le modèle qui est communément admis, c'est que les virus grippaux, ils circulent de façon quasi permanente dans la nature et que c'est la faune sauvage qui les héberge, en particulier les palmipèdes, c'est-à-dire les canards. Donc on se méfie de deux choses. On se méfie d'une part des zones humides et d'autre part des périodes de migration des oiseaux. Si on reprend encore une fois ce qui s'était passé en 2005-2006, le H5N1, on l'a vu arriver d'Asie du Sud-Est jusqu'en Europe et en France d'ailleurs, puisqu'on avait eu un cas en Dombe, mais un seul, par l'intermédiaire des couloirs de migration des oiseaux sauvages. Pour rentrer dans un élevage, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une faute de biosécurité, c'est-à-dire quelqu'un qui rentre le virus à l'intérieur du bâtiment parce qu'il n'a pas changé de chaussures, etc., etc. Ou une certaine forme de promiscuité avec la faune sauvage, à savoir des oiseaux qui vont dehors et puis qui sont pas très loin d'un étang ou pas très loin d'une zone où on peut héberger des oiseaux en cours de migration.
Et donc vous, en tant que vétérinaire, est-ce que vous avez affaire à des éleveurs très mécontents qui ne veulent pas respecter les règles? Est-ce que vous êtes là pour leur rappeler les règles?
Un peu à la croisée des chemins entre les vétérinaires officiels des services vétérinaires, ce qu'on appelle la DDPP, qui nous enseigne la loi. Nous qui sommes chargés de la faire appliquer et puis surtout de la transmettre à nos éleveurs, mais en même temps d'écouter un peu leurs doléances, de pouvoir remonter auprès de l'administration éventuellement les problèmes que ça peut représenter. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne la Bresse. La Bresse ayant un cahier des charges très exigeant qui impose aux oiseaux d'aller sur des parcours très étendus, hein, puisqu'on est entre 10 et 15 mètres carrés par volaille de parcours. Et aujourd'hui, la législation leur impose 0,5 mètres carrés de parcours par volaille, ce qui est bien évidemment trop peu pour qu'ils puissent s'y nourrir et ce qui explique leur mécontentement.
Et pour rappel, un premier foyer avait été repéré fin novembre dans un élevage de poules pondeuses au nord de la France. Et en ce moment, le virus de la grippe aviaire circule activement en Europe via les oiseaux migrateurs. La maladie est très contagieuse entre les volatiles, mais elle est très rarement transmise à l'homme et seulement s'il a un contact rapproché avec un oiseau porteur du virus. La grippe aviaire n'est pas transmise par la consommation de viande de volaille, œufs ou foie gras.
Radio B.
Pour les fêtes, des bus gratuits sur l'agglomération du Grand Bourg.
Le réseau de transport Ruby est gratuit les samedis 11 et 18 décembre pour vous déplacer facilement pour vos courses de Noël. Les lignes 1 à 7 sont concernées. Elles desservent Saint-Denis-les-Bourgs, Perona, Saint-Just, Viria et le centre-ville de Bourg-en-Bresse. L'objectif de cette opération est de favoriser les achats locaux et de montrer les alternatives à la voiture.
Des marchés de Noël un peu partout, à Bourg et aux alentours.
Le marché de Noël de Bourg-en-Bresse a ouvert vendredi dernier sur la place des Bons Enfants et d'autres rendez-vous sont prévus pour vos achats de Noël. Samedi et dimanche, le bar associatif Le Repère accueille des artisans locaux de 10h à 18h et jusqu'à 17h le dimanche. Le samedi, vous pourrez aussi acheter des produits locaux à la tannerie en nocturne de 17h à 23h. Et un autre marché de Noël à Journan, le vendredi 17 décembre à partir de 17h et à Saint-Denis-les-Bourgs de 15h30 à 18h30, aussi avec des producteurs et artisans locaux.
Les Glorieuses de Bresse, de retour cette année.
Du 14 au 19 décembre, vous pourrez aller voir et acheter les célèbres volailles d'appellation d'origine protégée. À Bourg-en-Bresse, ce sera le 159e concours pour désigner les meilleurs poulets, poulardes ou chapons. C'est le vendredi 17 décembre sous la halle du marché de 10h à 18h. Il y aura aussi un marché festif.
Et des volailles de Bresse distribuées aux familles précaires.
La région a voté une enveloppe de 100 000 euros pour aider à la fois la filière de la volaille de Bresse et les personnes précaires. Des volailles congelées pendant le confinement vont donc être rachetées. Elles vont être distribuées aux bénéficiaires des banques alimentaires des 12 départements de la région, ce qui représente 50 000 personnes.
Deux minutes, une actu.
Vendredi dernier, les assises des départements se sont clôturées à Bourg-en-Bresse. Inès, vous étiez sur place.
C'était un rendez-vous national où plus de 1000 élus étaient présents pour réfléchir aux compétences des départements. C'était une première pour le département de l'Ain. 102 propositions ont été formulées. Jean de Guéry, président du département et porte-parole de l'ADF, l'Association des départements de France.
Qu'on sache organiser, c'est une chose, mais surtout, ce qu'il faut, c'est qu'il en reste quelque chose à la fin. Et apparemment, c'est bien le cas. Puisque hier, on a eu des débats nourris d'échanges très importants et surtout très pertinents, ce qui nous a permis de recueillir des propositions que nous allons soumettre dès ce matin au gouvernement et en la personne du Premier ministre, et puis également à tous les candidats des élections présidentielles qui arriveront dans ces prochains mois. Et on souhaite bien sûr avoir des réponses.
Et donc parmi ces 102 propositions, lesquelles vous tiennent particulièrement à cœur, si vous pouvez en choisir quelques-unes?
Oh, elles sont multiples. Ce qui me fait plaisir, c'est que l'Ain avait contribué à ces propositions et que je vois des propositions de l'Ain qui sont maintenues dans les 102. C'est important, j'en prendrai qu'une parce que c'est la première et c'est celle qui me vient à l'esprit tout de suite. C'est le rétablissement de la clause de compétence générale en cas de crise. On a pu le voir durant la crise de la Covid, les acteurs économiques, touristiques, les habitants se tournaient vers nous en premier parce que justement nous sommes des élus de proximité. Et nous ne pouvions pas leur fournir toutes les réponses parce que nous n'avions pas les compétences. Et donc, dans ces cas d'urgence, eh bien, il faut que les départements reprennent la main. Et là-dessus, il faut que le gouvernement nous écoute. Il y a aussi certaines compétences qui nous ont fui à cause de la loi Nautré. Je prendrai la compétence des transports scolaires. Nous avons la compétence de la carte scolaire, mais nous n'avons plus les transports. Donc, c'est complètement paradoxal. Il faut aussi rétablir certaines vérités et certaines justesses. Donc il faut là aussi que le gouvernement et les candidats nous écoutent pour rétablir les choses. Nous voulons simplement apporter notre contribution et favoriser la vie des Français. C'est ce qui nous anime le plus. Il faut que chaque collectivité, que ce soit les mairies, que ce soit les régions, eh bien, comme les départements, aient des compétences tout à fait claires et précises. Et que les gens sachent ce qu'ils attendent de telle ou telle collectivité.
Donc Jean Castex vient ce matin, qu'est-ce que vous attendez donc de lui ?
Moi j'ai espoir parce que Jean Castex est un homme de terrain, c'est aussi un conseiller départemental. Il connaît le fonctionnement de nos institutions, de nos collectivités. Et j'attends de lui vraiment d'abord une écoute et puis des réponses à des questions qui sont pertinentes. Et encore une fois, ce n'est pas pour faire plaisir au département, c'est simplement pour rendre service aux Français. C'est cela qui nous anime.
Et pour le dernier jour de ces assises départementales dans l'Ain, le gouvernement est attendu de pied ferme par les élus. Jean Castex, le Premier ministre, est arrivé vers 11h à Interexpo. Il est accueilli notamment par la préfète, le maire de Bourg et les députés de l'Ain. C'était sa première intervention en public depuis sa quarantaine à cause du Covid. Son discours a duré une heure. On écoute un extrait.
Parmi les propositions, les 102 que vous avez mises, je n'ai pas encore lu complètement dans le détail, mais nous sommes favorables, je le dis ici sur la proposition de la ministre des cohésions, de la cohésion des territoires, d'une part à autoriser les provisions, comme vous avez dit, contrats cycliques pour faciliter les plans d'investissement pluriannuels, et nous sommes également favorables à l'instauration d'une clause de sauvegarde pour pallier dans le temps les variations de charges et de dépenses. C'est une demande que vous aviez exprimée, et mesdames et messieurs, les départements qui sera suivie. Nous pouvons regarder, bien entendu, tous les sujets qui nous séparent. Il y en a sans doute. Moi, je veux voir tout ce qui nous rassemble et tout ce qui nous réunit au service de nos concitoyens. Si la priorité des priorités, je l'ai dit, demeure la lutte contre la crise sanitaire, nous devons aussi assurer à notre pays la reprise la plus forte possible, parce que cette crise sanitaire a eu des conséquences économiques et sociales tout à fait fortes. C'est l'objet, d'abord, de tous les dispositifs, et là encore je remercie les départements qui y ont contribué, de tous les dispositifs d'accompagnement que nous avons mis en place dès le printemps 2020, que le gouvernement d'Édouard Philippe puis le mien ont renforcé au bénéfice de tous les secteurs économiques qui ont été impactés par la crise sanitaire et par les mesures que nous avons dû prendre pour y faire face. Nous avons ainsi, ensemble, chacun y a contribué, évité que l'économie française ne s'effondre.
Jean Castex a aussi réaffirmé la compétence des départements sur les routes. Des tronçons de routes nationales pourront ainsi être gérés à l'échelle départementale. Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires, va aussi déposer un amendement pour que les gestionnaires des collèges relèvent des compétences des départements, ce qui n'était pas encore le cas, alors que les départements s'occupent des collèges. Elle était d'ailleurs sur place. On écoute Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires.
Je crois que le fil rouge du discours du Premier ministre aujourd'hui a été de démontrer que pour répondre aux Français dans leur vie quotidienne, dans leurs préoccupations, il fallait que l'État et les collectivités territoriales travaillent ensemble. Et au-delà des très grandes, comme l'a dit le Premier ministre, des effets de tribune où il y a ceux qui demandent toujours plus de décentralisation, toujours plus de moyens, et puis qui en même temps, cinq minutes après, vous disent « mais que fait l'État pour nous aider ?» Ça veut bien dire que c'est un travail, et c'est ainsi, c'est consubstantiel à la France que les Français aiment l'État et aiment leur collectivité territoriale. Bien, nous sommes dans l'obligation pour leur répondre de travailler ensemble.
Est-ce que ce serait envisagé de donner encore plus de compétences au département ?
Nous sommes en fin de quinquennat, il y a une loi 3DS qui arrive, on apporte beaucoup de réponses, plein de réponses, par exemple les routes, comme ça a été dit, et d'autres décisions qui ont été prises. Après, il faut se projeter dans l'avenir, et c'est ce que font les départements avec leurs 102 propositions.
Le gouvernement a mis en avant le projet de loi 3DS pour la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et la simplification. Il est examiné jusqu'au 17 décembre par l'Assemblée nationale. Il vise très large, numérique, tourisme, culture, santé. Son but, redistribuer des compétences aux collectivités locales. Et si le gouvernement a fait quelques pas vers les départements, pour beaucoup d'élus présents, ce n'est pas suffisant.
Je suis Aziza Philippon, je suis conseillère départementale déléguée à la vie étudiante et associative dans le Val-d'Oise, dans le 95, dans l'Île-de-France. Vous avez pu constater l'ambiance de la salle, je trouve vraiment dommage. On attendait plus que ça, surtout aujourd'hui avec le contexte actuel, le contexte de Covid, de problèmes sanitaires, je pense que c'était important, on attendait beaucoup plus.
Alors Philippe Gouet, je suis président du conseil départemental de Loire-et-Cher. Moi, ce que je souhaite, c'est que le gouvernement prenne vraiment conscience de l'importance de la décentralisation et de redonner un rôle prépondérant au département. Voilà, c'est surtout ça le message que je veux faire passer au niveau du Premier ministre qui est venu. Il a essayé de nous convaincre Je pense que la loi 3DS ne répond pas à l'attente de l'ensemble des départements. Elle est très insuffisante sur cette décentralisation. Mais néanmoins, bon, il faut encore continuer à travailler avec le gouvernement. Et le président François Sauvadet est dans cette optique d'un dialogue permanent avec l'État et le Premier ministre en particulier.
Marie-Pierre Mouton, présidente du département de la Drôme. Petite déception quand même. C'est vrai, il y a des avancements, des ajustements, comme il le souligne lui-même dans la loi de décentralisation, la loi 3DS. Mais on est loin d'une vraie décentralisation dont on a besoin. Les départements sont une vraie force de proximité, d'agilité, de réactivité. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même encore du mal à entendre le message et notre volonté de travailler avec l'État, mais d'avoir aussi les moyens pour décliner nos politiques. On a fait 102 propositions. Et parmi ça, il y a notamment les gestionnaires de collèges que l'on voudrait revoir, voir venir dans le giron des départements, parce que nous avons par exemple à assumer la gestion, le bâti de nos établissements scolaires. On nourrit aussi nos collégiens et pour autant le gestionnaire de collège appartient à l'État, ce qui pose des difficultés. Et puis il y a des assurances à avoir en matière d'autonomie fiscale. Je crois qu'on a été élus pour conduire des politiques. Lorsqu'on nous retire l'autonomie fiscale, l'autonomie financière, on nous empêche d'agir au plus près des terrains et aux besoins de nos territoires. Ça fait partie des demandes très fortes que l'on a.
L'ADF espère que ces 102 propositions formulées avec les présidents des départements auront un écho auprès des candidats à l'élection présidentielle.
L'invité de Radio B.
Alice Desmarais présente son exposition à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté.
Et c'est une première pour la jeune illustratrice burgienne, Alice Summersband, de son nom d'artiste. Jusqu'au 30 décembre à la MCC de Bourg-en-Bresse, vous pouvez découvrir gratuitement ses œuvres. Elles sont dans l'espace coworking, à droite, en rentrant dans le bâtiment. J'ai rejoint Alice jeudi dernier pour l'inauguration de sa première exposition.
Et donc un petit mot, ça fait quoi d'avoir donc tes œuvres illustrées ici à la MCC de Bourg-en-Bresse ?
Ça fait bien plaisir, c'est ma première expo, donc je suis très contente. Et puis mine de rien, je pensais pas avoir assez de choses et finalement, on remplit assez vite.
Comment tu as pensé cette expo ? Qu'est-ce que tu as choisi d'exposer ce soir ?
Au début, je voulais pas forcément avoir un thème précis. Je voulais mettre des illustrations variées. Et en fait, j'ai rassemblé pas mal de dessins de Bourg et d'autres, mais surtout de Bourg. Donc c'est des façades, des vues, des toits.
Quelles ont été les façons de faire ces différentes illustrations ? Quels procédés t'as utilisé ?
Pas mal de différents. J'ai fait du travail à la gouache, à l'encre, au crayon de couleur. D'autres au feutre noir, à l'encre de Chine. D'autres encore où j'ai mixé donc techniques que j'appelle traditionnelles, donc crayon, gouache, avec du numérique, donc Photoshop. Donc je mélange un petit peu, j'aime bien faire ça. Et il y a aussi de la linogravure. Et je crois que j'ai tout dit.
Mais qu'est-ce que tu peux nous présenter deux tableaux, nous dire comment tu les as pensés, comment tu as eu l'inspiration donc.
Premier, donc, c'est celui de l'affiche. Okay. Donc celui-là, je l'avais fait d'après une photo dans mon carnet de croquis. Donc là, il est vraiment affiché tel quel. J'ai pas voulu trop couper la page. Donc on voit vraiment que c'est une page de carnet de croquis. En dessous, il y a des petits tests de couleurs. Il y a des petits, voilà, des traits de crayon quand on essaye si on s'est pas trompé de crayon, justement, quand on est en train de dessiner. Donc ça, c'est 100% crayon de couleur.
Donc est-ce que tu peux déjà nous le décrire ?
Alors c'est... Donc il y a un bâtiment au centre qui est... d'un joli rose et bleu foncé, qui est c'est un pavillon de l'ancienne caserne du Champ de Mars, donc c'est vers la Semcoda. Juste devant, en fait, il y a deux pavillons qui sont symétriques, donc ces petits bâtiments-là. Et devant, en fait, ça prend la moitié du dessin, la moitié du bas, c'est plein de petits trèfles, des fleurs violettes dans l'herbe. Et derrière le bâtiment, on a des arbres qui habillent l'arrière-plan.
Donc, tu as utilisé quel procédé ?
Je suis partie Donc, j'ai ma photo en modèle. Je décalque jamais, hein, parce que j'aime bien m'approprier, faire des erreurs aussi. Je trouve que ça apporte un petit truc. Et donc, c'est départ croquis au crayon de papier. Peut-être commencer... Ouais, j'ai dû faire un croquis au crayon de couleur rose clair pour que ça se voit pas trop après. Parce que des fois, le crayon à papier, ça ressort et c'est pas terrible. Donc je suis partie de là et puis après j'ai commencé à faire la façade et après j'ai fait J'ai fait les fleurs et après, je crois que j'ai fini par le fond, par l'arrière-plan. Et après, en fait, je rehausse petit à petit. D'abord, je fais plutôt des aplats de couleurs. Et on voit après la texture, les fleurs notamment, on voit que j'ai repassé des traits de violet plus foncé pour accentuer, pour que ce soit un petit peu, pour apporter du relief.
Et pourquoi tu as choisi ce bâtiment ?
Ah, c'était pas forcément pour ce bâtiment, c'était vraiment la photo que j'ai trouvée magnifique. J'ai pas le nom d'ailleurs de l'auteur de la photo, mais c'est quelqu'un qui l'a posté sur Instagram, que j'avais remercié. Je lui avais montré mon dessin après. C'est sympa ce qu'on peut faire avec Instagram, de se rencontrer comme ça. Et donc c'était vraiment une photo qui avait été prise pendant le confinement de mars 2020. Et je pense que cette période, comme tout était arrêté, on n'a pas coupé l'herbe, donc les trèfles ont poussé et c'était vraiment magnifique. Parce que maintenant, il n'y en a plus. Voilà, je voulais parler de celui-là qui s'appelle le 6h10, donc qui est dans la salle de réunion de l'espace Cowork. Donc c'est au fond, il ne faut pas hésiter à aller au fond. Et donc c'est des toits avec des cheminées qui fument et dans les couleurs de jaune, gris. C'est des toits que j'ai pris d'une photo de Lyon. Et donc là, c'est vraiment l'exemple de quand je parle de mélange technique traditionnelle et Photoshop, et ça se voit assez, hein, parce qu'on voit des textures au crayon à papier, et à côté de la couleur qui est très lisse, enfin très nette, et le dessin qui est fait à la main, du coup, c'est au feutre. Donc après, c'est scannage, on nettoie le dessin sur Photoshop pour avoir des lignes propres, et les couleurs, par contre, sont ajoutées, c'est des couleurs numériques, en fait. C'est pas de la gouache ou de la crayon de couleur. Et donc celui-là, je l'avais fait pour un cocktail. C'était une carte de cocktail, plus précisément, d'un bar à Lyon, qui s'appelle Le Groom. Et donc dans leur carte, chaque cocktail avait une illustration associée par rapport à l'esprit du cocktail, en fait. Et donc moi, le 6h10, c'était un cocktail, donc c'est un cocktail sans alcool qu'ils proposent. Ah oui, il y a du café dedans. Et en fait, j'ai repris le café, le citron, dans les couleurs, en fait.
Tes collaborations, ça en est où aujourd'hui? Quels sont tes projets?
Alors aujourd'hui, j'ai des projets avec l'Office de tourisme de Bourg. Donc vous verrez un truc bientôt. Je ne vous dis pas, je ne spoile pas.
Et qu'est-ce que tu aimerais avoir comme projet?
Là, moi, je suis pas mal attirée par la presse magazine. J'aimerais beaucoup partir vers ce côté-là, parce que j'ai l'impression que je suis plus dans le joli dessin, et ça me plaît, mais j'aimerais aussi avoir apporté un sens aussi à mon dessin, à partir plus dans cette direction. Quelque chose de peut-être plus conceptuel, avec peut-être plus de personnages aussi, parce que je n'en fais pas beaucoup, j'aimerais bien développer ça. Je pense à des magazines où des fois il peut y avoir des sujets qui sont compliqués à illustrer en photo ou comme ça, et donc l'illustration permet de combiner en fait des idées.
L'exposition d'Alice Desmarie est à voir à l'espace coworking de la MCC de Bourg-en-Bresse jusqu'au 30 décembre. C'est en libre accès. Et pour voir les illustrations dont elle parle dans l'interview, rendez-vous sur notre page Facebook Radio B ou directement à la MCC.
Vous vous sentez comment là avant l'arrivée de monsieur le député ?
On s'échauffe tranquille, respirez bien.
Pouf ! En reportage avec Radio B.
Bonjour David.
Bonjour.
Des lycéens de Caria en visite à la librairie Montbarbon.
Laurence Tabouret est professeure au lycée Caria de Bourg-en-Bresse. Passionnée de lecture, elle a partagé sa passion avec ses élèves grâce au dispositif national Jeunes en librairie. L'objectif, leur expliquer l'univers du livre et les métiers de la librairie grâce à des visites, ateliers et rencontres avec des professionnels. Fin novembre, sa classe d'une trentaine d'élèves de seconde a visité la librairie Montbarbon. Chacun a choisi des ouvrages pour un montant maximum de 30 euros, avec une seule consigne, se limiter à un manga.
C'est-à-dire que là, on va déambuler sur les différents espaces de la librairie pour choisir les ouvrages. Vous n'oubliez pas de demander des conseils aux libraires qui sont présents et que vous voyez, est-ce que vous voyez des libraires dans la librairie ? Comment est-ce que vous les identifiez ? Ils ont un gilet rouge, d'accord ? Donc je vous laisse faire le tour de la librairie.
Ce projet tient beaucoup à Laurence Tabouret pour des raisons personnelles.
Pour moi, c'était important de les amener au livre, à l'objet livre, parce qu'ils lisent en fait nos élèves, mais ils lisent pas forcément des livres. Et ça m'a rappelé aussi, quand j'étais petite, cette nécessité d'avoir des livres autour de moi. Moi, je manquais cruellement de livres. C'est ce qui m'a amenée à composer ma propre bibliothèque. Et je me dis que peut-être les livres qu'ils choisiront là les suivront toute leur vie. Et en tout cas, c'est le vœu que je fais. J'espère que ce n'est pas un vœu pieux.
Après avoir exploré tous les coins du magasin, farfouillé dans les différentes étagères et demandé des conseils aux libraires, les élèves font leur choix. J'en ai profité pour leur poser quelques questions. Ont-ils l'habitude de lire? Et que pensent-ils de cette opération?
Ça, ce genre d'opération là, avec des livres offerts, ça te donne envie de lire encore plus?
Moi, je trouve ça bien, oui, parce que franchement, on a le choix en plus sur tout le magasin, tout ça. Donc, je trouve ça bien, oui, ça me donne envie d'acheter plein de trucs.
Ça vous fait le montant exact?
Celui à 21€ et les autres tomes ils étaient à 7 et quelques, donc ça remplit les critères.
Ok, super, bravo.
Alors j'ai commencé à lire un manga il y a pas longtemps, qui parle de foot, etc. Et le deuxième c'est un livre, le tome 1 d'Harry Potter. Je lis beaucoup de mangas, après les romans d'autres types, j'en lis pas trop. Mais après, je vais quand même essayer, ça, je trouve que je vais aimer, on va voir.
Et est-ce que tu penses que ce type d'opération là, ça incite les élèves à lire davantage?
Ça se peut, si peut-être si ils vont aimer le, par exemple quelqu'un prend un roman, se trouve il va aimer, et il a lu aucun livre avant ça, se trouve il va dire ouais mais pourquoi j'ai pas lu ça avant et je vais en acheter d'autres. Donc ouais je pense que c'est une très bonne idée même.
Et toi tu lis quoi de manière générale?
Je lis pas.
Tu lis pas spécialement?
Non.
Et est-ce que vous lisez vous?
Pas trop.
Et ça te donne envie de lire ou pas?
Un peu, mais pas trop non plus.
Moi, je lis beaucoup. Moi, je lis beaucoup de mangas.
Moi, je lis rien du tout.
Eh bien, c'est bien de lire des mangas.
La description,
ouais, mais on peut en prendre qu'un seul.
Ouais, ça. Ça. Quand vous lisez, donc des livres papier, vous lisez plutôt quoi comme thème?
Des magazines. Magazines sur sport ou des mangas.
Et qu'est-ce qui fait que vous n'allez pas sur des romans, des choses comme ça?
Je trouve que c'est trop long. Et,
c'est les volumes?
Après, oui, les volumes. Je perds vite le fil du livre.
Je lis surtout des mangas et des romans fantastiques. Après je lis pas beaucoup d'autres trucs, je lis surtout ça en fait.
Tu penses que ce genre d'opération peut aider à donner envie aux jeunes de lire davantage?
Oui, par exemple, rien que pour moi d'ailleurs, j'ai lu très peu de livres et il y en avait encore moins qui me plaisaient bien. Mais là, quand je vois des livres, je fais « Ah, j'ai bien envie de lire celui-ci ou celui-ci ». Donc ouais, je pense que ça peut aider. Ouais.
Je lis plus des romans et surtout des gros romans. J'aime bien Bernard Werber.
Tu lis beaucoup toi?
Oui, ça va. Mais oui, souvent.
Ouais. Tu lis quoi le plus?
De tout. Surtout des histoires d'amour.
Le rapport à la lecture de chaque élève est donc très différent. Certains sont ravis de cette occasion d'acheter des livres, d'autres y sont moins sensibles. Leur professeur Laurence Tabouret constate chez eux un intérêt croissant, ce qui n'était pas forcément gagné au départ.
Est-ce que les élèves de cette classe sont réceptifs à ce projet, réceptifs à l'envie de lire?
Alors au départ, pas du tout. Et puis petit à petit, ils se sont intéressés au projet. Ils m'ont montré qu'ils étaient capables de s'investir sur leur temps personnel pour ce projet. Donc la lecture, petit à petit, devient finalement un incontournable. Et là, tel qu'on les voit dans la librairie, on voit qu'ils sont intéressés. Donc bien sûr, ils sont allés spontanément vers les mangas, mais pas seulement. Ils vont vers d'autres ouvrages, des ouvrages d'ailleurs plus documentaires. Et certains ont même lâché les mangas pour se concentrer uniquement sur des documentaires.
Après leur choix de livres, les lycéens se rendent dans les coulisses du magasin avec Martin Montbarbon, le dirigeant. Il leur raconte l'histoire de la librairie en visitant les pièces historiques, les bureaux de travail et même la grande verrière du bâtiment.
Bon voilà, vous êtes dans la salle, la grande salle de réunion. La salle où on prend toutes les grandes décisions. C'est un petit peu la pièce musée de la librairie. Donc on y trouve l'essentiel des productions éditoriales sur le département de l'Ain, qu'on a conservé, qu'on essaie de conserver. C'est ce qu'on appelle le fond local. Maintenant, je vais vous faire visiter la salle de réception. Donc, on se retrouve ici dans le c'est un peu la salle de commandement un travail de l'ombre, c'est-à-dire que cette partie-là, personne ne la voit, mais c'est ici que tous les livres que vous voyez en magasin, chaque livre qui sort du magasin, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, il est rentré dans le magasin et il est passé par ces postes-là pour être rentré en stock. Donc c'est vraiment un point névralgique de notre activité, puisque pour être capable de dire à un client si on a tel ou tel livre en stock, savoir où les ranger, etc., etc., il faut qu'il soit bien rentré en stock, il faut que ce soit propre.
La visite de Montbarbron n'était pas la seule activité au programme de cette opération Jeunes en librairie. Plusieurs semaines avant, une sortie avait été faite au festival de BD de Viria pour rencontrer des auteurs. La classe a aussi reçu la visite de Jean-Philippe Vernoux, le patron du magasin Bulle et compagnie, et de Martin Montbarbron pour parler des métiers de bouquiniste et de libraire. De leur côté, les élèves ont aussi travaillé. Ils ont réalisé des affiches, des panneaux explicatifs, des articles ou encore des captations vidéo. Pour rappel, Jeunes en librairie est un dispositif généralisé sur l'ensemble du territoire dans le cadre du plan gouvernemental France Relance lancé en 2020. Le déploiement en région, dont Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture est l'opérateur, est piloté par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat avec les délégations académiques aux arts et à la culture de Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon, la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et l'association Chez Mon Libraire.
Merci David. À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
Et on se retrouve lundi prochain à 18h sur le 90FM. Et n'oubliez pas, ce mardi 7 décembre à Bourg-en-Bresse, une émission spéciale en public à 18h avec l'humoriste Nicole Ferroni. Ce sera aussi en direct sur le 90FM et en podcast dès le lendemain. Bonne semaine sur Radio B.
Les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins.
On n'a pas assez pour joindre les fins de mois. Donc heureusement qu'il y a des associations comme ça.
C'est une chance de pouvoir être accepté dans une telle clinique.
L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie des cyclistes.
C'est relaxant de faire du poney.
On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
C'est un challenge que je m'offre ici. Dans le monde carcéral, et une chance, surtout.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombarté et Audrey Radondi.